Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société.
Je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Alatre Media et l'animatrice de ce balado. Pour cette série spéciale, j'ai eu l'opportunité d'animer une série de 6 causeries d'une heure en collaboration avec Startup Montréal, réunissant des aspirantes entrepreneurs et des CEO établis. C'est un format unique que j'ai hâte de partager avec vous et j'espère qu'il saura vous plaire.
Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute.
Donc pour commencer, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est vraiment un honneur que tu clôtures en plus cette petite série.
Merci de l'invitation. C'est toujours le fun de partager et puis là, de voir aussi plein de nouveaux projets qui voient le jour. J'ai hâte.
Pour commencer, est-ce que tu veux peut-être nous parler un petit peu de ton parcours personnel et comment tu en es arrivée à l'entrepreneuriat?
Moi, je suis arrivée au Québec il y a 11 ans. Pour faire j'ai un background en design et en architecture intérieure. J'ai fait mes études en France. Et je suis venue ici faire une maîtrise en gestion de projet d'aménagement à l'Université de Montréal. Puis, en arrivant au Québec, j'avais aucun réseau professionnel. Donc, j'allais dans plein d'événements pour rencontrer du monde. Je suis ici d'une culture libanaise où le commerce et les relations sont extrêmement importantes, puis appris dans le berceau. Donc j'allais dans des événements pour rencontrer des gens, bâtir mon réseau professionnel. Puis j'entendais des grandes entreprises parler de recyclage. C'était vraiment le début aussi du développement durable et tout ça. Mais ça donnait des grandes leçons aux citoyens. Puis je repartais de ces événements avec une clé USB faite en Chine. Je pense que ça vous est pas mal tout arrivé. Puis c'est là où je me suis dit, c'est bien étrange. Pourquoi une grande entreprise fait la leçon aux citoyens quand elle n'est même pas capable de montrer l'exemple finalement et de me remettre ça. Puis c'est là que j'ai commencé à me renseigner un peu sur l'industrie de l'objet promotionnel pour me rendre compte qu'il n'y avait aucun designer dans cette industrie. Puis c'est quand même ma formation de base. Et me rendre compte qu'en fait, tous les objets étaient extrêmement cheap, en plastique, transportés de l'autre bout de la planète. Et c'est là que Cotmo est né. Pour permettre aux entreprises d'avoir un approvisionnement responsable, de réintégrer le design dans cette industrie et de la rendre plus socialement viable, mais aussi plus respectueuse de notre environnement. Donc chez Cotmo, on design, on conçoit, on commercialise de l'objet promotionnel fait au Québec. Et ça depuis presque 10 ans maintenant. Donc, c'est pas mal ça. On est certifié B Corp depuis le début de la compagnie. Ça a été quelque chose de vraiment important. On pourra en reparler s'il y en a qui s'intéressent à la certification. Mais ça a été super important dès le début. Puis, c'est un peu comme ça que mon aventure a commencé. J'ai été comme, je devrais peut-être faire ça. J'appelle mon père. Puis j'étais comme, papa, peux-tu m'aider 6 mois? J'ai peut-être une idée d'entreprise. Elle me dit, ouais, vas-y, 6 mois plus tard, j'étais comme, ok, j'ai besoin peut-être d'un autre 6 mois. Puis 9 ans plus tard, c'est ça qui est sale.
Et à quel moment tu t'es dit, c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que comme tu dis, 6 mois sont passés, tu as dû avoir des défis et tout ça. À quel moment tu t'es dit, c'est bon, je suis sur mon X, c'est ça que je veux faire, puis je vais tout faire pour que ça fonctionne?
C'est une bonne question. Je pense que il y en a eu des moments où je me suis dit, c'est ça que je fais. Le premier, c'est quand j'ai signé mon premier prêt avec Femme et Sœur, qui est aujourd'hui Evol. Donc, mon premier endettement de 30 000 $ a été un peu comme, je ne peux pas trop de retour en arrière. Donc, ça a été un moment où je me suis dit, OK, go, j'y crois, j'emprunte parce que la personne, elle m'avait dit, puis ça m'a toujours marqué, puis c'est un conseil que je donne souvent. Là. Quand je suis allée chez Evol, il y avait Futurpreneur et Evol. Puis les deux, ils se parlent. Là. Donc, c'était si Evol vous donne vous prête, ben, futur preneur vous prête, puis vice-versa. Puis là, au début, je voulais juste 15 000. J'étais comme, ben, futur preneur, c'est 15 000, et vol, c'est 15 000, juste 30 000, ça suffit. Puis la directrice, à l'époque, chez Evol, elle m'a regardée dans les yeux, puis elle m'a dit, écoute, Céline, pour faire de l'argent, il faut de l'argent. J'étais comme, ah, OK. Donc, comme tu prends le maximum que tu peux, puis tu verras bien ce qui se passe. J'étais comme, OK, mais c'est beaucoup, là. À l'époque, c'était 30 000, donc c'est 30 000 et 15 000, mais le 30 000 était sur plusieurs versements avec des objectifs de vente et tout, donc je n'avais pas tout l'endettement d'un coup. Mais c'est sûr que ça m'a fait un petit kick en me disant, OK, j'y crois, je m'endette, j'ai besoin de cet argent pour me partir en affaires, puis ça va fonctionner. Ça, wow. C'était le premier. Après, il y a tous les autres prêts aussi qui me sont, fait dire, je ne retourne plus en arrière.
Et tu parles d'endettement, je pense que c'est quelque chose qui fait très peur. Souvent, quand on parle de femmes en entrepreneuriat, on parle souvent de la gestion du risque, du fait qu'on est peut-être plus sécuritaire dans les décisions qui sont prises. Comment un peu t'as géré cette gestion-là du risque face à l'endettement, qui est quand même une grosse étape, toi toute seule, sur tes épaules?
Mais c'est sûr que c'est toujours stressant. Je me souviens comme si c'était hier de la nuit, de la veille où j'ai dû aller signer l'endettement, je n'ai pas dormi de la nuit. Puis, à un moment, tu sais, il y a plein de fois où parfois on peut se dire comme, est-ce que je ferais autre chose? Puis quand je me retourne, puis je me dis, oh, ça me saoule, je ne voudrais plus faire ça. Là, je me dis, mais je ferais quoi d'autre? Puis c'est là où je me rends compte qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, en fait. Il n'y a rien d'autre qui me plaît, il n'y a rien d'autre. Tu sais, j'imagine ma vie non-entrepreneur. Je suis comme, oh my God, je pense qu'au bout de 2 mois, je peux être un câble. Donc, il y a ça. Mais après, je pense que notre tolérance au risque, elle se bâtit avec le temps. Puis, tu sais, moi, j'ai appris à me connaître. J'ai parti d'entreprise, j'avais 25 ans. J'avais rien. J'ai pas de maison, ouais. J'avais pas d'enfant. J'avais rien, en fait. Si je perdais... Bah, au pire, il y a des gens qui s'endettent pour acheter une voiture. Moi, je me serais endettée pour monter une entreprise. Il y a des gens qui s'endettent pour acheter une maison. Moi, je me serais endettée. Tu sais, c'est comme... Absolument. On s'endette dans tout dans la vie, que ce soit. Peu importe. Mais après, on peut choisir. Est-ce que je décide de m'endetter face à une entreprise ou je décide de m'endetter face à d'autres choses qui sont matérielles aussi? Puis à partir du moment où j'ai compris ça, puis que je me suis dit, ben, en fait, c'est juste que... Moi, mon rapport à l'endettement et ce pourquoi je m'endette, c'est parce que je crois profondément à ce qu'on fait. C'est aligné avec mes valeurs. Mmh. On amène quelque chose sur le marché qui est complètement différent. Et à travers l'entreprise, je porte... C'est une vision du monde pour moi que je porte. C'est ma vision du monde. C'est ma vision de ce que devraient être des entreprises dans le monde actuel, de leur responsabilité sociale. Et ça, c'est très personnel, hein, mais je considère, puis bon, j'ai grandi en France, donc c'est aussi peut-être différent, mais je considère qu'un pays nous donne énormément, nous donne accès à de l'éducation, nous donne accès à de la santé. Et pour moi, m'endetter dans une entreprise, c'était une façon de redonner de ce que j'ai reçu, en fait, d'un gouvernement, par exemple. Donc c'est ça. C'est, je pense qu'il faut avoir cette réflexion interne de se dire... c'est quoi ma tolérance au risque? On en a toutes des différentes. Elle évolue avec le temps, c'est de bien s'entourer. Puis je pense qu'une fois qu'on est à l'aise avec notre risque, qu'on est capable de prendre, mais c'est plus facile d'avancer. Donc,
absolument. C'est ça. En même temps, tu as dit deux choses qui m'ont vraiment allumé des lumières. Je trouve que ça me fait réaliser en fait, que l'endettement, peut-être que... qui n'est pas tourné vers l'achat immobilier ou autre et moins valorisé dans la société en ce moment. C'est sûr que quand tu prends cette décision-là, c'est plus toi avec ton réseau qui doit faire face. C'est sûr que ça doit être un peu plus une autre approche. Là. Donc je trouve ça hyper courageux. Puis c'est vrai qu'on s'endette pour s'acheter des maisons. Alors pourquoi pas créer son propre emploi puis redonner à la communauté? Tu as créé encore plus d'emplois comme ça.
Puis ça a une valeur. À la fin, tu t'endettes pour une entreprise. Parce que l'idée, c'est qu'elle vaille quelque chose. Mmh. C'est comme, donc c'est une sorte d'investissement. Parce que ton objectif, il est le même. Donc. Et en plus, celui-là, tu le contrôles. T'sais, le marché immobilier, tu ne le contrôles pas.
Non, c'est clair.
Ta voiture, elle déprécie 30% quand tu l'achètes, qu'elle sort du garage. Enfin, tu sais, il y a un moment, c'est ça aussi. Là, ça va en grandissant. Puis, De toute façon, les organismes, ils ne vont pas te prêter des choses complètement disproportionnées non plus. Puis je pense qu'il faut arriver... Moi, à un moment, j'avais fait le calcul, là, je m'étais dit, OK, 30 000, combien de temps ça me... C'est quoi sur un... Tu sais, imagine, je retourne demain dans un emploi, puis je fais tant d'argent par année, mais 30 000, ce n'est pas énorme à rembourser, par exemple. Puis, tu sais, c'est ce petit kick-là. Puis... En fait, ouais. Une fois que tu commences à t'endetter, le... parce que c'est que ça commence à grandir, puis tu commences à faire des ventes, puis là, après, tu te dis, OK, mais là, j'ai un autre projet, j'ai besoin de... Puis après, tu es pris dans un engrenage, puis c'est ça, la vie des entreprises. Toutes les entreprises sont endettées parce qu'il te faut de l'argent pour pouvoir créer des choses, en fait, et changer le monde.
Puis en même temps, ça te met peut-être le coup de pied aux fesses. Tu es obligé de les rembourser, donc là, tu es obligé de performer. Tu as non seulement des gens qui sont derrière toi, mais toi, ça t'oblige aussi à performer. Donc, c'est comme un incitatif aussi positif, au final. Ouais. On t'a fait confiance.
Oui, et puis en plus, il faut le faire, il faut le prendre, le petit 15-30 000 là, qui est facile à accepter dès le début. Il faut le prendre parce que, en plus, tu as un moratoire. Enfin, je pense que les conditions sont toujours les mêmes, mais... tu as un moratoire, tu as des taux préférentiels, tu as quand même des choses qui c'est de l'argent facile pour te partir en affaires. Puis vous allez voir à la fin, là, sur les paiements mensuels que c'est, parce que c'est genre sur 5 ans à peu près, c'est rien, là, c'est un 200 pièces à rembourser par, par mois. Au final, ça représente plus grand-chose quand tu fais un chiffre d'affaires puis que tu as des clients. Parce qu'une fois que vous avez ça, il faut se concentrer sur aller chercher des clients puis pas aller chercher tous les prêts possibles et inimaginables, mais...
Et justement, tu parles de ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience au niveau des incubateurs, des bourses? Je pense qu'on a tous un peu cette idée d'aller chercher toutes les bourses et des fois, on peut se perdre dans cette espèce de stratégie puis de course au petit prix puis justement au financement. Ouais. C'était quoi ton expérience à travers ça?
Moi, j'ai une sacrée expérience parce que, tu sais, il y a 10 ans, je parlais de développement durable, je parlais de design, je parlais d'achat local. Puis, j'avais pas du tout une croissance de comme licorne. Donc, on s'entend que personne, tout le monde était comme « Ah, ben, c'est bien cute ton petit truc, mais ça va pas marcher. » Donc, j'ai eu beaucoup de portes fermées, j'ai eu beaucoup de... peu de personnes qui comprenaient l'industrie de l'objet promotionnel. C'est pas une industrie qui est connue, en fait. Je pense que quand on n'est pas là-dedans, on se rend pas compte de tout. L'amas de produits, de trucs, d'entreprises qu'il y a qui font des milliards de chiffres d'affaires. Et quand je racontais ça, je pense que... c'est ça, c'est les gens... Je pense qu'il y a... C'est une méconnue, en fait, comme industrie. Puis alors, encore plus, parler de développement durable, parler de design, parler d'achat local, c'était comme... On était à des années-lumière de ce qu'on est aujourd'hui. Donc, au début, moi, j'ai commencé, puis j'ai appliqué à toutes les concours, les bourses, Puis, j'en gagnais pas. J'en gagnais aucun. Puis, à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui était en... Lui, partait son entreprise en technologie. Puis, il gagnait tout. Donc, là, j'ai vraiment vécu ce décalage, en fait, de comme je suis dans une industrie qui n'est pas forcément trendy ou qui n'est pas que tout l'écosystème québécois en parle. Puis, c'est comme, oh my God, il y a juste ça sur Terre. Et ça, ça a été super difficile. Ça a été super difficile parce qu'à un moment, j'étais comme, bon, ben, OK, ben ça marche pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à gagner des concours ou des prix ou des trucs quand j'ai commencé à m'endetter. Parce que ce qui se passe, c'est que tout l'écosystème, ça se parle entre eux. Ils se connaissent tous. Puis dès qu'il y en a un qui embarque, ben, il est comme, ah, mais là, si Futurpreneur est là, ou si la BDC est là, ou si PME, ben, moi aussi, je vais être là. Ça veut dire que le projet est peut-être intéressant, ça veut dire que, tu sais, puis c'est ça qu'il faut essayer, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, cette dynamique-là entre les organismes de soutien, entre les accélérateurs, les incubateurs et tout ça. Puis en fait, ce que je conseille, c'est de faire le chemin inverse de ce coup de celui que j'ai fait, c'est d'aller prendre le premier Futurpreneur, le premier 15 000 de Futurpreneur, puis ensuite d'aller taper à la porte des autres, parce que c'est aussi, ils regardent aussi, si vous êtes prêt à vous endetter pour votre entreprise, ben moi aussi, je vais m'endetter pour votre entreprise. T'sais, je vais vous faire confiance parce que vous avez aussi confiance dans votre... C'est ça que ça envoie comme message. Et donc, il faut le faire dans ce sens-là pour justement mettre toutes les chances de notre côté. Puis après, donc ça c'est pour la partie comme concours, financement et tout. Puis surtout, cibler les concours ou cibler les organismes qui sont intéressants pour votre business. Ne les faites pas toutes parce que faire tout ça, ça prend tellement de temps. Puis pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas en train de vendre. Mais si vous ne vendez pas, vous avez beau vous être endetté, ben à la fin, il va falloir le rembourser cet argent. Donc, c'est un équilibre dans le développement de votre entreprise à choisir. C'est pas besoin d'aller tout prendre au début, mais est-ce que le réseau, par exemple, de PME Montréal, c'est un réseau qui vous intéresse? Ou est-ce que vous préférez celui des vols? Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de ressources dans l'un ou l'autre pour commencer? Puis vous y allez petit à petit et vous en demandez un, puis ensuite, parce que déjà en monter un, c'est long, puis après, vous concentrez sur des ventes. C'est la chose la plus importante de l'entreprise, c'est vendre et avoir des clients. Parce qu'une fois que vous avez ça, ben, tout le reste devient beaucoup plus facile. Et c'est la même chose avec les accélérateurs, les incubateurs, les programmes et tout. Ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie. Il faut s'assurer de sortir le maximum que vous pouvez de ces moments-là que vous passez dans ces choses-là. Puis pas les faire tous en même temps, pas les enchaîner tous. Parce qu'à un moment, on peut tout apprendre dans des salles de classe, mais on apprend tout sur le terrain. Puis les personnes qui vont nous donner le plus de insight, ça va être nos clients. Ça va être les clients qu'on va perdre, ça va être ceux qu'on va gagner, ça va être les fournisseurs avec lesquels vous travaillez. C'est tous ces gens-là, à la fin, qui font votre entreprise. Puis votre énergie, elle doit être là-dessus, parce que vous êtes en train de bâtir un cas qui ensuite, ben, les organismes, tout ça, eux vont vouloir s'imbriquer là-dedans et vous soutenir. Puis c'est comme ça que vous allez être plus forte.
Donc, vendre. Et... c'est quoi, peut-être justement, quand on sort de ce genre de programme et qu'on veut vendre, c'est quoi ton conseil? Est-ce que, justement, choisir un réseau, parce que t'es porte-parole de la JCCM, est-ce que tu trouves que, justement, les réseaux d'affaires, c'est une bonne façon de commencer à vendre quand on a, justement, un réseau à bâtir?
Oui, vraiment. Puis, à la Jeune Chambre, on a le réseau des jeunes entrepreneurs, justement, pour les entreprises qui se partent. Puis c'est un endroit où on crée des liens. Mais même là, entre vous, les liens que vous êtes en train de créer ici, c'est des liens qui vont vous suivre toute votre vie entrepreneuriale. Puis c'est des liens hyper forts. Parce que trouver des amis entrepreneurs, puis partager des choses qu'on vit en entrepreneuriat, ben, c'est pas avec tout le monde qu'on peut les partager. Puis... il faut surtout faire très attention à l'isolement entrepreneurial. Et ça aide, en fait. Ça aide. Puis là, j'ai l'impression que j'ai perdu le début de ta question.
Je disais pour la vente, au niveau des réseaux d'affaires.
Oui, c'est ça.
Mais je suis complètement d'accord que le réseau, c'est important.
Pour la vente, mais ça dépend dans l'industrie dans laquelle vous êtes aussi. Il y a des réseaux... Tu sais, il y a des réseaux où ça va être plus ciblé... par exemple, en développement durable, ben, ce n'est pas les mêmes réseaux qu'en art. Donc, c'est aussi d'arriver à comme, vous focusser sur un réseau puis mettre l'énergie dans ce réseau. Moi, c'était un conseil qu'on m'avait demandé, on m'avait dit, c'était de ne pas faire plein de réseaux en même temps, mais chaque année, d'en choisir un puis de se dire, cette année, je mets mon énergie sur ce réseau-là. Parce qu'un réseau, ça s'entretient. Ça prend du temps. C'est d'aller aux événements tout le temps parce que vous revoyez les mêmes personnes. Puis c'est à force de répétition que vous allez bâtir ces liens-là. Puis que les gens vont commencer à parler à d'autres gens qui connaissent quelqu'un qui est peut-être un potentiel client. Donc, le réseau, il est essentiel pour vendre. Tu sais, nous, au début, là, je pense que j'ai commencé à faire de la pub Google, genre, l'année dernière. Tu sais, tous les clients, c'est du bouche à oreille, c'est des gens qui m'ont entendu dans des conférences ou quelqu'un qui a reçu un objet ou des choses comme ça. Mais ça a été beaucoup d'énergie, ça a été beaucoup de temps de ma vie dans des 5 à 7, dans des choses. Mais c'est parce que je vends à des entreprises à la fin. Ça dépend, c'est qui votre acheteur, tu sais, aussi. Mais en B2B, je pense que le réseau est essentiel.
absolument. Non, c'est clair. Puis il ne faut pas aussi se sentir tout de suite... au début, ça ne marche pas, donc ça prend du temps aussi de récolter les fruits. Donc il ne faut pas lâcher prise, je pense que ça, c'est...
C'est long. T'sais, moi, mes journées, là, au début de l'entreprise, c'était, j'avais des tableaux Excel. Puis là, j'avais des onglets par industrie. Puis là, chaque semaine, c'était un onglet. Puis là, c'était l'hôtellerie. Puis après, c'était les assurances. Puis après, et puis j'envoyais des courriels. C'était plate à moi. Mais c'était ça, tu sais. J'envoyais genre énormément de courriels. Puis la première année, on a fait genre 100 000 $ de chiffre d'affaires. Puis juste avec des courriels que j'envoyais. Aujourd'hui, j'envoie plus de courriels, mais comme ça. Mais c'était beaucoup de temps. Et c'était aussi beaucoup des gens qui avaient entendu parler ou des références ou des choses comme ça. Donc, c'est de trouver les bons partenaires aussi avec nous, que ce soit même à travers Startup Montréal, que ce soit dans des incubateurs que vous feriez après, que ce soit l'entreprise qui vous prête de l'argent, parce qu'eux, ils ont tout intérêt que vous fassiez du cash après, hein, parce qu'ils veulent que vous les remboursez, puis ils veulent que vous empruntiez encore et encore, tu sais, parce qu'ils font l'argent sur les taux d'intérêt. Donc, en même temps, tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne une fois qu'il y a un petit prêt qui est sorti.
Peut-être pour la question de la fin, avant que vous puissiez lui poser toutes vos questions, c'est quoi le conseil que tu donnerais justement à une jeune entrepreneur qui vient peut-être de terminer un parcours et qui se retrouve face à toutes ces portes-là devant elle et qui ne sait peut-être pas laquelle franchir et par où commencer?
Je ne sais pas s'il y a juste un conseil, j'ai envie de résumer ce que j'ai dit, mais je pense que la première chose, là, quand vous allez sortir, parce que je sais qu'il y en a peut-être qui sont en train encore de travailler ou des choses comme ça, je pense que la première chose que je vous donnerai comme conseil, c'est de faire un bilan, vous, de votre santé mentale. Vous, comment vous vous sentez, votre tolérance au risque, votre tolérance à des espèces de roller coaster d'émotions. Je pense que moi, on ne m'avait pas préparée à ça. Mais déjà faire une petite introspection pour vous encourager, vous donner l'énergie, puis de vous connaître, parce qu'on ne peut pas être tout bon partout, mais au moins de savoir c'est quoi qui peut comme vous faire un petit genre, oh, ça me saoule, oh, non, j'ai pas le goût et tout. Puis savoir sur quoi vous rattacher pour avoir cette énergie entrepreneuriale. Donc, je pense que la première chose, c'est ça. Puis ensuite, une fois que vous avez une map de tous les incubateurs, accélérateurs, organismes, whatever name it, de l'écosystème entrepreneurial, c'est d'essayer de trouver celui, de frapper d'abord à la porte de celui qui vous ressemble dans vos valeurs, avec lesquelles vous trouvez que les ressources sont intéressantes, puis leur réseau de contact est intéressant, et qui est les partenaires. Je pense que ça serait ça.
Je pense que c'est un très, très bon point, c'est clair. Donc, c'est à votre tour. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que vous en avez plein.
J'ai une question par rapport à ce que tu mentionnais au début. Ça fait 10 ans que ta business existe, ou du moins que tu as commencé. C'était quoi les méthodes que tu utilisais pour intéresser les gens à ce que tu avais à dire, alors que tu étais peut-être un peu trop tôt pour la société à ce moment-là? C'était quoi les méthodes ou les tactiques, ou est-ce qu'il y a des bons coups qui ont bien marché ou des mauvais coups? Je serais intéressée de savoir.
C'est une bonne question. Il faut me ramener dans des souvenirs, là, aussi. Je pense que je misais beaucoup sur la responsabilité sociale d'entreprise. J'avais beaucoup un discours là-dessus, sur faire prendre conscience à l'organisation que ce qu'elle est en train d'acheter, ça n'a aucun impact économique, social ou environnemental. Donc, d'aller chercher un petit peu de données peut-être, ou de montrer ces choses-là. Généralement, quand je disais « Ah, vous avez déjà reçu une clé USB faite en Chine, ça ne vous choque pas », puis les gens étaient quand même assez « Ah oui, c'est vrai », d'accrocher sur quelque chose que c'est tellement dans ta vie de tous les jours que tu ne te rends pas compte, mais quand quelqu'un te le dit, tu es comme « Bah oui, voyons, ça ne fait pas de sens ». On essayait d'aller chercher ce petit déclic-là, en fait, mieux équiper mes clients à comprendre ce qu'on fait. Et à partir de là, on a développé des vidéos pour montrer la production des objets. Donc, quand les gens achetaient chez nous, ils avaient accès aussi à une vidéo sur la fabrication du produit. Ça m'a coûté un bras de faire tout ça, mais ça m'a fait gagner énormément de clients. Donc, c'est aussi d'investir sur des choses, tu sais, qui vous différencient sur le marché. Donc, on a fait ça, puis on a fait des rapports d'impact. Donc là, les clients, quand ils achetaient chez nous, à la fin, on leur remettait un rapport qui expliquait, ben voilà, vous avez dépensé 10 000 $ chez nous, voici l'impact économique, environnemental et social de l'achat chez Cotemo. Ça, j'arrivais à le faire quand j'avais une petite centaine de clients, un petit chiffre d'affaires, puis pas beaucoup non plus. Aujourd'hui, on ne le fait que sur mesure, on fait les rapports d'impact pour nos clients qui dépensent plus de 10 000 chez nous. Enfin, tu sais, comme les vidéos, on ne les fait plus, on n'a plus le temps, plus l'énergie. Puis avant, on faisait tout à Montréal aussi. Maintenant, on a des manufactures à travers la province, donc ça a été plus compliqué. Donc, on le fait plus. Les gens ne nous le demandent plus non plus. Mais ça m'a énormément permis d'aller chercher beaucoup, beaucoup de clients. Puis on a gagné beaucoup de contrats grâce à ces services-là que je budgétais, mais que je mettais à ligne zéro. Tu sais, je leur disais la valeur de ça, mais c'était offert. C'était une façon de mieux éduquer, de mieux enseigner, de mieux transmettre ce message-là.
Ma sous-question serait, est-ce que tu crois que ça... Parce que tu arrives quand même avec une vision qui était un peu plus avant-gardiste qu'à l'époque. Est-ce que tu crois que ça aidait de « meet the person where she is », donc de revenir un petit peu à, bon, je vais parler un peu dans la condition que tu es, avec le langage que tu connais, où tu étais plutôt campé dans une position plus avant-gardiste et donner les clés aux gens pour atteindre cette position-là?
Oui, j'étais plus dans la deuxième. Plus, on a vraiment toujours gardé notre focus, toujours... après, c'est dans ma personnalité aussi. J'avais pas peur de dire à certaines grandes organisations que, genre, ça n'a pas de sens ce que vous faites, en fait. Puis ça n'a pas de sens de donner. Autant rien donner, en fait. Puis, tu sais, parfois, je leur disais. Puis, tu sais, il y a des contrats où on me disait non parce que c'était comme. Puis concrètement, c'est expliqué. Tu sais, il y a des choses, parfois, on nous mettait en compétition. Ah, mais on veut vraiment travailler avec vous et tout, mais. Tu sais, j'aimerais ça avoir un tote bag à 5 $. Ben oui, mais tu sais comment il est fait ton tote bag à 5 $? Donc, je vais t'expliquer comment ça fonctionne un tote bag. Puis, c'est exact. Et puis, ça, on avait le discours. Puis, tu sais, il y a des... Parfois, il y a pas si longtemps, tu sais, il y a une cliente qui me dit « Ah, mais j'ai trouvé ma tasse, ma bouteille faite au Québec ou une tasse faite au Québec à genre 10 $ ou un truc comme ça. » Puis j'étais comme « Ah ouais, mais écoutez, ça m'intéresse, j'aimerais bien ajouter ça à mon catalogue. Dites-moi, c'est quoi? Montrez-moi une image. » Elle me voit l'image. Puis tu sais, dans l'industrie, on se connaît tous les produits. Là. Puis j'étais comme « Attention, votre produit n'est pas fait localement, il est imprimé localement, ce qui est complètement différent. » Et ça, et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de contrats, il y a eu beaucoup de choses mais aujourd'hui, ça paye. Ça aura pris 10 ans, là, mais ça paye d'avoir été campé sur notre position, d'avoir été progressiste par rapport au développement durable et à l'achat local. Parce qu'aujourd'hui, que tout le monde se réveille, que c'est important parce que la planète brûle, ben, ils n'ont pas d'autre option que de se tourner vers nous parce que nos compétiteurs, ils sont hyper en retard. Les produits locaux que tu trouves, c'est des planches à découper, des porte-clés. Enfin, je veux dire, à un moment, tu as fait le tour. Et ça nous a permis... d'avoir une crédibilité sur le marché qui a été très dure à avoir. Mais parce qu'on a tout cet historique, on a l'expérience qui est nécessaire où les gens, quand ils cherchent de l'achat local, ben, ils se tournent obligatoirement vers nous parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on en parle. Donc, tu vois, c'est là où parfois... Et c'est pour ça que c'est super important de rester accroché à vos valeurs, de rester accroché à ce pourquoi vous faites ça, pourquoi vous montez une entreprise, c'est quoi le changement que vous voulez voir dans le monde, dans votre industrie, autour de vous, et de jamais déroger de cette ligne-là, parce que c'est ça qui va vous permettre de passer à travers les doutes, à travers les pandémies, de rester aligné là-dessus, et parfois ça va être difficile. Souvent, ça va être difficile, mais à la fin, ça va être gagnant, à la fin, ça va être payant, puis vous serez beaucoup plus en amour avec votre business. Je pense qu'il y a des moments où on l'aime plus, notre entreprise, ça, on pourrait faire tout un sujet là-dessus, mais je pense qu'il y a des moments où c'est difficile, où on est comme « Ah, pourquoi je fais ça? C'est compliqué, nanana et tout », mais c'est ces valeurs-là, c'est ces petites valeurs qui sont comme au fond de votre... que vous ressentez au fond de votre ventre qui vont vous faire passer à travers ces choses-là. Donc, même si tout le monde vous... Il y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir, pour croire en vous. Tu sais, nous, ça a été des individus, je pourrais te les nommer sur les deux doigts de la main, ces individus-là qui nous ont comme élevés, qui ont cru, qui nous ont permis d'aller plus loin.
C'est un très beau message pour la fin. Merci beaucoup. Merci vraiment. À vous.